Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast. Et vous le savez, tous les vendredis, une prescription d'une bande dessinée pour bien terminer la semaine. Et c'est bientôt Noël et compagnie, c'est-à-dire la saison des bonnes résolutions à prendre pour la nouvelle année. Enfin, quand je dis bonnes résolutions, ça veut surtout dire une liste de sacrifices, d'abandons, de renoncements sages. Autant de défis qu'on espère parvenir à relever, tout ça bien sûr au nom du bien-être, de notre bien-être. Lisa Mandel, l'auteur de bande dessinée marseillaise, s'est donné une année pour en finir avec toutes ses addictions. Elle raconte son expérience au jour le jour dans Une année exemplaire, une bande dessinée de 400 pages, éditée par elle-même.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Lisa Mandel, vous êtes à Marseille, mais vous êtes avec nous.
Bonjour Toufik, oui je suis à Marseille, je suis avec vous par le cœur.
Bon, alors vous vous êtes donc donné une année pour en finir avec toutes vos addictions, c'est-à-dire arrêter de picoler et de fumer, arrêter les gâteaux sucrés et les sandwichs gras, et tant qu'à faire, en finir également avec les addictions numériques, c'est-à-dire les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le cocooning avec chips salés et séries à portée de clic. Mais plutôt que de prendre prétexte du 1er janvier pour vous lancer dans cette aventure, Lisa Mandel, vous avez choisi le 15 juin, pourquoi pas?
Bah pourquoi pas, ça s'est trouvé comme ça, c'était une extrêmement mauvaise idée, mais j'ai pu ainsi passer un été un peu pourri, à boire du Perrier pendant que tout le monde buvait le pastis en terrasse. Mais oui, ça s'est fait comme ça, j'ai pris la décision de faire ce financement participatif, donc de commencer
Absolument.
Cette bande dessinée au début de l'été, et du coup je l'ai commencé.
Parce que c'est ça l'idée originale, pour relever le défi, vous prenez à témoin vos lecteurs et vous décidez avec un financement participatif de publier une page quotidienne sur les réseaux sociaux.
Voilà, exactement. J'ai décidé de m'auto-éditer complètement de A à Z pour ce projet. Et donc je suis passée par je vais pas dire que j'ai fait l'aumône parce que finalement c'est de la prévente, mais oui je suis allée prendre à partie mes lecteurs.
Alors entre juin 2019 et juin 2020, le monde va être bouleversé, notamment par la pandémie du Covid. Mais cela, vous ne pouvez pas le prévoir quand vous êtes lancée dans cette aventure, Lisa Mandel. Les pages publiées sur les réseaux sociaux donc ont été réunies dans ce livre auto-édité, une année exemplaire, et donc un livre pensé, écrit, édité et distribué par vous-même, Lisa Mandel. On va autant parler des petites histoires de cette année exemplaire, donc de votre vie, Lisa Mandel, et comment vous avez traversé les grands bouleversements de l'année, la révolution au Liban, la crise sanitaire mondiale. Mais on parlera aussi de l'histoire du livre, comment il fut conçu, imprimé, distribué en dehors des réseaux habituels. Mais d'abord, il faut dire à quel point c'est un livre très drôle, même si vous parlez de choses très graves, des choses très graves que nous avons tous partagées cette année, ça reste quand même de l'autofiction qui n'oublie pas de se moquer du genre, c'est-à-dire qui n'oublie pas de se moquer de l'autofiction.
Alors c'est vraiment autobiographique, hein. C'est pas de l'autofiction, tout ce que je raconte est vrai, mais effectivement il y a pas mal de je me moque pas mal de moi, il y a pas mal d'autodérision, c'est quelque chose contre lequel j'ai du mal à lutter, c'est-à-dire que dès que je commence à dessiner ce qui m'arrive, je peux pas m'empêcher d'en rire, aussi dramatique que cela puisse être, comme par exemple le fait que je sois épileptique. Par exemple, qui est pas quelque chose d'extrêmement joyeux, bah, j'ai réussi à en parler en rigolant un petit peu. C'est pas systématique hein, que ce soit rigolo, mais voilà, j'ai essayé effectivement de parler de tous les sujets et même ceux qui a priori sont un peu lourds, d'en parler avec un peu d'humour, quoi.
Pour en finir avec vos addictions, Lisa Mandel, vous avez décidé d'établir une liste de 20 commandements.
Oui, j'avais 20 commandements, dont effectivement ceux dont vous avez parlé, c'est-à-dire arrêter de picoler, de fumer. Bon, je fumais quand je buvais, donc ça fait un espèce de pack des deux. De manger n'importe quoi, c'était aussi faire du sport, c'était aussi être positif, c'était aussi, j'ai effectivement arrêté de regarder des séries débiles, ne regarder que des chefs-d'œuvre. Enfin, je m'étais mis un cahier des charges absolument intenable, et en fait qui effectivement n'a pas été tenu à 100% puisque y a eu un moment où je me suis sentie extrêmement mal et où j'ai été obligée de mettre de l'eau dans mon vin, enfin de l'eau dans mon Perrier plutôt, et où je me suis rendu compte en fait que mes addictions étaient aussi des béquilles qui m'aidaient à fonctionner correctement toute l'année et qu'elles avaient une utilité. Et puis c'est aussi une critique en creux, enfin pas qu'en creux, hein, des régimes et de l'espèce d'injonction à la perfection et au corps parfait. Voilà, c'est aussi une critique de tout ce système dans lequel on grandit, surtout quand on est une femme.
Et ces critiques sont venues au fur et à mesure que vous teniez votre journal, Lisa Mandel, ou c'était la chose à démontrer à travers cette histoire où vous mettez en scène en train d'essayer désespérément d'arrêter vos addictions?
Bah, en fait, je pensais sincèrement qu'avec en rendant mon défi public, j'arriverais à la fin de l'année avec un corps de rêve et une hygiène de vie irréprochable. Il se trouve que ça s'est pas du tout passé comme ça et qu'effectivement, je me suis retrouvée face à mes propres démons et les addictions n'arrivent pas par hasard. J'ai raté, mais je savais déjà dès le départ que je voulais pas parler, par exemple, de régime. Moi, pour moi, il était hors de question de faire un régime. C'est une façon d'aborder la nourriture que je déteste. Moi, j'ai grandi en faisant des régimes depuis que je suis assez enfant. Je suis au régime. Ma mère était au régime. Ma grand-mère était au régime. Et je vois bien les résultats que ça a eu sur moi, sur ma fratrie et sur ma famille. Et donc, je suis complètement contre le concept des régimes.
Pourquoi? Quel résultat ça a eu?
Bah, ça a eu qu'en fait, bah, comme 99% des gens qui font le régime, bah, plus, alors, sur le moment, on maigrit, puis après, on regrossit plus, enfin, on prend plus de kilos que ce qu'on avait perdu auparavant, et au fur et à mesure des années, on rentre dans une spirale où on fait le yo-yo, ce qu'on appelle le yo-yo, et on perd, on gagne, et on finit par se retrouver beaucoup plus gros que ce qu'on aurait été si on n'avait pas fait de régime dès le départ. Parce que ça dérègle le corps complètement, en fait, les régimes. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des constatations de plein de spécialistes qu'en fait, on est programmé pour faire un certain poids, et que plus on fait du yo-yo, plus on grossit, plus le poids idéal du corps pour le cerveau augmente. Donc en fait, c'est une boucle sans fin de prise de poids, en fait.
Vous ressortez comment de cette année exemplaire? Quelles sont les addictions que vous avez pu éliminer, Lisa Mandel?
Alors, je ressors de cette année grandi et grossi. C'est-à-dire que quelque part, c'est une victoire et c'est à la fois un échec. Donc, j'ai pu me débarrasser définitivement, enfin, je l'espère, de la cigarette. Ça, j'ai pas repris. Bon, j'étais fumeuse, mais je fumais pas énormément. Mais quand même, ça a été une grosse victoire. Mon rapport à l'alcool, en fait, n'était pas du tout névrosé pour le coup. Donc, bah, rien n'a changé. C'est-à-dire que quand j'ai recommencé à boire, j'ai rebu de manière tout à fait raisonnable. Pour le reste, j'ai à peu près tout raté, c'est-à-dire que j'ai absolument pas du tout arrêté de regarder des conneries sur les réseaux sociaux, et j'ai pas arrêté de jouer à des jeux vidéo, et puis j'ai pas tellement fait plus de sport que je n'en faisais avant de commencer le défi. Mais par contre, j'ai réussi aussi le défi de faire une page par jour, et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important. Et j'ai réussi aussi à comprendre mon propre mécanisme et comment, en fait, la vie avec un grand V prend le pas sur le nombrilisme, et la vie avec un petit V de tourner vers soi-même, tel que j'avais appréhendé le projet. Puisque moi, au début, c'était vraiment un truc de développement personnel, quelque part. Et en fait, très rapidement, j'ai réussi à pas tourner en rond, et en fait, je me suis pris quelques claques qui ont fait que j'ai raconté ce que c'est d'être une personne qui vit une année et ce que c'est de suivre le quotidien de quelqu'un pendant un an. Et c'est là où c'est devenu intéressant. J'ai eu, donc tant mieux pour ma trame narrative, tant pis pour l'humanité, mais il y a eu le Covid qui est arrivé aussi en plein milieu et qui a complètement chamboulé mon défi. Et puis bon, je me suis retrouvée aussi au Liban avec ma compagne, et puis il y a eu la révolution au Liban, je me suis aussi retrouvée au Niger, et il s'est passé des choses. Donc en fait, aussi la vie a fait que j'avais autre chose à raconter que juste le rapport à mon corps et à l'addiction.
Alors ça commence avec beaucoup d'humour, Lisa Mandel, mais alors comment on fait pour garder cette distanciation par l'humour quand on est rattrapé par des drames, par exemple par la pandémie du Covid ?
C'est, je pense, une culture, en tout cas c'est une culture familiale. Nous, on a toujours utilisé l'humour pour se protéger des drames de la vie, et en fait, ben simplement... Je sais pas comment vous dire, quand autant j'ai pas de recul et j'ai pas forcément d'humour sur moi-même dans la vraie vie, c'est-à-dire que je peux être susceptible, me vexer et me lamenter comme tout le monde, mais une fois que je prends mon stylo et que je raconte mon histoire, ce petit personnage qui est mon avatar et qui se met à exister sur le papier, il me fait prendre conscience de la vanité de la vie et comment tout est relatif et comment en fait on peut rire de tout. Et donc bah le Covid, il y avait quand même des choses un peu absurdes dans le début de la pandémie qui sont ressorties dans mon travail, mais effectivement avec la BD, moi j'essaye toujours de voir ça sous l'angle absurde et humoristique.
Mais votre vie intime, votre vie professionnelle, votre vie de tous les jours avec tous les tracas quotidiens sont racontés dans ce livre. Vous vous mettez à nu, Lisa Mandel?
Alors on va dire je me mets en slip. À nu, pas tout à fait, puisque si vous remarquez bien, dans la BD, il est très peu question de sexualité, de sexualité, de sexe, de la mienne en particulier. Et ça, parce que pour moi, c'est ma véritable intimité, le tabou, il se situe un peu là. Donc j'ai pas abordé tous les sujets. Par exemple, ce sujet-là, je l'ai pas abordé. Et
faut dire aussi, on sait avec qui vous vivez,
on connaît. On sait avec qui je vis. Mmh. Ah oui, oui. Non, j'ai raconté ma vie, mais pour autant, j'ai essayé d'éviter de faire du déballage. Voilà, j'ai pas fait de déballage. J'ai essayé d'éviter exhibitionnisme. Après, oui, je raconte ma vie, je raconte mes tourments, mais qui sont quand même assez souvent quand même un peu ridicules. Et puis, oui, je parle aussi de mon quotidien. Mais pour autant, moi, j'ai pas l'impression d'avoir été transgressive par rapport à l'intimité. Je me suis protégée, quoi, quand même. J'ai choisi ce que je voulais raconter, mais c'est vrai que j'en ai raconté beaucoup.
Une année exemplaire, ça devient ironique hein, pour nous quand on lit la bande dessinée. Est-ce que au départ, ça l'était, ironique, le titre de votre bande dessinée?
Mais pas du tout, j'y croyais à 100%. Moi, j'étais sûre que j'allais faire une année géniale, que j'allais regarder tous les Tarkovsky que j'avais ratés, que j'allais vraiment m'épanouir intellectuellement, un esprit sain dans un corps sain. Moi, j'y croyais à fond. Et en fait, ça a foiré lamentablement, mais j'étais vraiment premier degré quand j'ai commencé. Je me suis dit, je vais y arriver, ça va être dur, mais je vais y arriver, je vais découvrir des nouvelles choses, je vais sortir transcendée de cette expérience. Et en fait, la vie s'est mise en travers de mon chemin, mais c'est presque philosophique, hein, comme parcours. Ça m'a fait changer quelque part, hein, mais pas dans le sens que je croyais.
On se réveille avec vous, on vit la journée avec vous, on voyage avec vous et on écoute même la musique que vous écoutez. Et là, Lisa Mandel, on est tombé sur un petit bijou de rock libanais des années 70, je crois. Et c'est vraiment très bien. On va l'écouter et on reprend cette discussion si vous voulez bien. You know my baby, you know, you know, you know, you know. I don't want to be strong, I don't want to be young. Thinking about the guys who made all the troubles. Thinking about the guys who made only troubles, they ignore what they are doing. They ignore what they are doing. Do you love me?
Do you, do you?
Do you need me?
Do you, do you?
Do you want me?
Do you, do you?
Do you love me?
Do you, do you?
Do you need me?
Do you, do you?
Do you want me?
Do you, do you?
Do you love me?
Do you, do you?
Do you need me?
Do you, do you?
Do you want me?
Do you, do you?
Do you love me?
Do you, do you?
Do you need me?
Do you, do you?
Do you want me?
Do you, do you?
Lisa Mandel, mais qui chante? C'est incroyable.
Ouais, c'est dingo. Hein. Moi, j'ai découvert ça grâce à Léna. Oui, je la trouve vraiment sorcelante cette chanson. Elle est hypnotique. Et c'était une famille. Hein, le nom m'échappe là tout de suite. Mais c'était une famille qui chantait tous ensemble. C'était juste avant la guerre, je pense. Et en plus, le clip est vachement bien. Je conseille à tout le monde. d'aller le voir, parce qu'ils sont simplement sur la corniche à faire de la musique tous ensemble.
Mais c'est Ben Dali Family, vous avez oublié.
Voilà, c'est ça.
Do You Love Me, Ben Dali Family. Une année exemplaire, c'est le titre donc de votre bande dessinée, ou Comment vaincre ses addictions en 365 jours, une bande dessinée que vous avez auto-éditée et que vous vendez en ligne ou dans quelques librairies. Expliquez-nous, Lisa Mandel, comment vous vous êtes lancée dans l'auto-édition, parce que généralement l'auto-édition, c'est l'affaire des jeunes auteurs qui commencent, qui ont du mal à trouver des grands éditeurs. Vous, vous êtes publié par les grandes maisons d'édition de bande dessinée, et pourtant vous avez décidé pour ce projet de vous lancer toute seule et dans l'auto-édition.
Alors en fait, effectivement, je l'ai pas fait par défaut. Parce que je suis déjà éditée, j'ai déjà des éditeurs avec qui je travaille depuis longtemps, mais pour autant j'avais envie d'essayer en fait de suivre en fait la chaîne du livre d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de la conception d'un livre jusqu'à sa naissance, et puis même changer quelques couches au passage, au lieu de laisser ça en fait à mon éditeur comme je le fais habituellement. Et effectivement, l'auto-édition, c'est plutôt le travail de jeunes auteurs ou d'auteurs confirmés, mais qui ont envie de faire des projets très radicaux, qui ne trouvent pas leur place chez leurs éditeurs traditionnels. Moi, j'ai voulu faire une BD plus ou moins mainstream, la prendre en charge complètement. Pourquoi ? Parce que donc il y avait cette curiosité de connaître un peu toutes les facettes, et aussi parce que je pense que la situation des autrices et des auteurs aujourd'hui, elle est de plus en plus précaire, et que j'avais quand même cette petite curiosité de voir si j'arriverais à m'en sortir au niveau logistique et au niveau financier en faisant finalement le bouquin toute seule. Et donc je me suis lancée un peu dans un brin de folie, mais quand même pas mal prévenue par les autres qui dont plusieurs avaient des expériences plus ou moins malheureuses dans l'auto-édition. Donc j'ai eu beaucoup de conseils qui m'ont servi tout au long de ce bouquin, quoi.
Et alors aujourd'hui, bilan de cette expérience ?
Alors c'est effectivement extrêmement compliqué d'auto-éditer. Enfin extrêmement compliqué, c'est extrêmement contraignant, parce qu'il faut il faut s'occuper de tout, faut avoir plein de casquettes, faut faire le suivi de fabrication, être en contact à la fois avec l'imprimeur et à la fois avec les libraires, mais ne pas oublier de répondre à ces lecteurs qui commandent des livres individuellement sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est compliqué. C'était compliqué de faire tous les paquets, parce que comme j'avais fait un financement participatif, et ben après il a fallu envoyer les livres à tout le monde. Il y a toujours des livres qui n'arrivent pas, alors on doit gérer les retours, on fait du secrétariat, donc tout ça c'est quand même compliqué. Après, j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire que effectivement j'ai signé de contrat à personne à part avec moi-même, et j'ai eu des droits d'auteur démultipliés forcément, puisque je me suis occupée de tout. Et alors au niveau financier, ce qui a pas été rentable, si vous voulez, c'est que j'ai fait une page par jour pendant un an, mais ça j'aurais eu la même chose chez un éditeur, c'est-à-dire que j'ai énormément produit, donc ça c'était pas forcément rentable. Par contre, le résultat, l'argent que j'ai recueilli aujourd'hui beaucoup plus, un tiers ou la moitié de plus que ce que j'aurais eu avec une avance normale chez un éditeur classique. Et l'argent est le mien, c'est-à-dire que c'est pas une avance sur droit que je dois rembourser, c'est mon argent. Parce que donc nous les auteurs, on a des pourcentages sur les livres, mais on est payé en avance sur droit, qui sont plus ou moins importantes selon notre notoriété et selon l'éditeur chez qui on publie. Mais en gros, oui, moi j'ai gagné plus d'argent en auto-publiant mon livre. Après, j'ai beaucoup plus travaillé aussi, donc c'est normal.
Et vous avez contacté des librairies pour mettre votre livre en vente?
Tout à fait. Alors j'ai contacté pas mal de librairies pour leur demander si c'était intéressé par mon livre. Alors heureusement, j'ai quand même presque 20 ans de carrière derrière moi, donc beaucoup de libraires me connaissent. Donc ça a été, je pense, plus simple peut-être que pour quelqu'un de complètement inconnu d'être acheté. Après, j'ai réussi en discutant avec des amis libraires, en discutant avec des éditeurs, j'ai essayé de trouver une formule qui conviendrait aux libraires, qui serait pas en leur défaveur, et enfin où on sortirait tous gagnants du truc. Donc moi j'ai fait de la vente ferme, à part sur Paris, parce que Paris, j'y reviens souvent et que je peux aller faire la popote, la tournée des popotes. Mais j'ai fait de la vente ferme, mais avec des droits, avec des remises libraires qui étaient intéressantes pour les libraires, en offrant les frais de port, ce que je propose toujours d'ailleurs. Et voilà. Mais après, c'est clair que j'étais pas dans toutes les librairies, que j'ai été dans je suis dans une quarantaine de librairies en France, voire une cinquantaine, et que je vends beaucoup moins de livres en librairie que ce que j'aurais vendu chez un éditeur. Mais étant donné que je gagne beaucoup plus d'argent, j'ai besoin de vendre moins de livres. Donc c'est un cercle un peu vertueux, un peu étonnant et vertueux à la fois. C'est-à-dire que j'ai vendu peut-être 5 fois moins de livres, mais j'ai gagné plus d'argent.
Et vous allez continuer dans cette expérience de l'auto-édition?
En fait, oui, j'avoue que j'ai goûté, que j'ai aimé. Et donc, non seulement je vais continuer, mais en plus, je suis en train de réfléchir à la création d'une structure alternative qui serait un peu à cheval entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle, et pour permettre, en fait, une meilleure répartition des droits pour les artistes-auteurs, parce que moi et bien d'autres pensons qu'aujourd'hui, la répartition des droits, elle est pas suffisante pour nous permettre de vivre correctement. Quand je dis nous, je parle pas forcément pour moi, qui arrive avec donc une carrière qui commence maintenant à être un petit peu longue, qui ai eu la chance d'avoir toujours des éditeurs qui ont cru en moi et qui m'ont suffisamment payé. Mais néanmoins, j'ai signé, comme tout le monde, des contrats complètement désavantageux. Et j'ai des avances sur droits qui, parfois, si vous voulez, moi, je fais partie des auteurs qui vivent tout le temps avec l'avance sur droit du prochain album. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un équilibre qui est complètement dans le déséquilibre. Donc voilà, aujourd'hui, je réfléchis à cette façon de travailler, qui est finalement une édition où l'auteur revient au centre de son œuvre et a plus de responsabilités, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, hein, mais à la fois récolte plus de fruits de son travail, s'investit plus, et on a un groupe d'experts qui sont au service de l'auteur, aussi au service du livre. Surtout, on est tous au service du livre, et tout le monde est payé en pourcentage des ventes, quoi, en gros. Donc ce projet-là, j'en parle parce que d'ici quelques jours, il va être rendu public, puisque je lance de nouveau un financement participatif autour de ce projet. Donc là, le financement se lancera là dans quelques jours.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Lisa Mandel. Je rappelle qu'une année exemplaire, si on ne peut pas le commander chez son libraire, on peut toujours le commander en ligne, bien sûr.
Tout à fait, sur le site lisamandel.fr.
Merci Lisa Mandel.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, prise de son Pierre Montaigne, et c'est une émission réalisée par Vincent Abouchard. On se retrouve lundi, passez un excellent week-end.